Bonjour chers auditeurs, vous écoutez l'émission La Bible en question. Au micro, Catherine Mann et Anne-Marie Arbitre. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Catherine, bonjour à tous, ravie d'être avec vous.
Voilà, nous voici donc au début d'une nouvelle exploration biblique, celle du livre des Proverbes, avec comme projet de confronter ce livre à notre vie moderne pour voir si cette sagesse populaire et antique est encore praticable aujourd'hui, ou comment faire pour l'adapter éventuellement aux idées actuelles et la rendre plus accessible. Nous avons vu lors de la précédente émission que ce livre est attribué au roi Salomon, à qui Dieu a donné une prodigieuse sagesse, comme vous savez, et que cette sagesse, c'est ce qui lui a permis de composer, nous dit la Bible, au moins 3000 proverbes. Ce qui nous a montré que les proverbes, donc, c'est-à-dire normalement une vérité de portée universelle, ils ont dans la Bible une spécificité. Au-delà de la simple mémoire populaire, ils s'enracinent en Dieu. L'enseignement qui est contenu dans le livre des Proverbes se rapporte aussi à l'alliance entre Israël et Dieu.
Et d'autre part, nous avons constaté aussi que l'ensemble du livre est composé de plusieurs parties ayant des styles différents. Et donc, nous avons déjà examiné de près la dernière émission, donc l'introduction, c'est-à-dire les 7 premiers versets du premier chapitre, qui nous exposaient donc le but du livre, qui est de donner aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes, des repères pour bien se conduire dans les diverses circonstances de la vie. Il s'agit donc de donner par les proverbes toute une éducation, à la fois morale et religieuse, puisqu'elle relie toujours à la loi de Dieu. Cette éducation est donnée par les sages, mais d'abord par les parents. Je vous lis donc les versets 8 et 9 de ce premier chapitre. « Écoute, mon fils, les leçons de ton père. Ne néglige pas l'enseignement de ta mère. C'est comme une couronne de grâce sur la tête, un collier à ton cou. » Voilà, donc les leçons vont donc s'adresser à un garçon, et quelquefois, parfois à plusieurs aussi, on le verra un petit peu plus tard.
Oui, mais toujours des garçons. Et nous sommes à une époque, dans une culture qui valorise principalement le masculin, bien évidemment. Et pourtant, remarquons quand même que la mère est prise en compte ici dans l'éducation des fils, presque à égalité avec le père. En tout cas, c'est ici le couple parental qui nous est montré comme guide moral. Comme si pour aboutir à une éducation équilibrée, le pôle masculin et le pôle féminin étaient nécessaires. Alors, dans notre réflexion sur l'adéquation de ces textes pour notre époque, on peut déjà se dire que ce modèle de famille traditionnelle a déjà un peu pris du plomb dans l'aile, comme on dit. On devrait se demander même maintenant si les familles monoparentales, un père seul ou surtout une mère seule, sont autant capables d'une éducation équilibrée. Sans parler des familles homoparentales, donc on peut comprendre que certaines familles d'opposants au mariage pour tous, parce qu'ils veulent être fidèles au modèle biblique, ils s'inquiètent en fait de la santé morale des enfants.
Oui, mais de nos jours, l'idée même d'une tradition qui aurait sa source en Dieu, il faut bien le dire, et de l'obéissance à un modèle familial biblique, pose problème. Il n'est plus dans l'air du temps de se référer à une loi supérieure à l'homme. L'humanité est à elle-même son propre Dieu. Elle se crée ses propres règles au jour le jour, avec plutôt le souci de l'originalité et de la nouveauté que celui de se conformer à une norme divine. Alors pour le livre des Proverbes, le souci premier est le devenir de l'enfant, surtout du fils, on a vu bien sûr, mais quand même. Cela ne ressemble pas franchement aux revendications actuelles du droit à l'enfant, où tout se concentre sur la satisfaction parentale. Mais cela n'empêche pas d'espérer que ces conseils de sagesse biblique trouvent encore une utilité s'ils arrivent à tomber dans les bonnes oreilles au bon moment. Parce que dans le fond, nos sociétés semblent un peu désorientées quand même. Elles auraient peut-être besoin de ces repères anciens.
Oui, mais avec cette question qui revient toujours, comment adapter des conseils qui sont nés dans une culture traditionnelle assez stable quand même, pour notre époque où, au contraire, tout est sans arrêt en changement. Le pape François lui-même répète régulièrement, nous ne pouvons plus nous contenter de dire on a toujours fait comme ça, il n'y a pas de raison de changer. Parce que le contexte actuel est tellement différent que nous devons apprendre à déplacer les bornes de la tradition. Il faut nous adapter au changement, d'accord. Bon, mais jusqu'où ? On ne peut quand même pas tout accepter. Il faut du discernement. Et surtout, peut-être, du simple bon sens. Et c'est ce bon sens qui nous dit, par exemple, qu'un père et une mère forment une bonne base, bien équilibrée, hein, pour qu'un enfant puisse construire harmonieusement son identité, comme le propose le livre des Proverbes. Il faut bien, comme disait quelqu'un, un ADN mâle et un ADN femelle pour faire un nouvel être. Cela n'empêche pas de comprendre qu'il y a des situations plus complexes parfois et que nous n'avons pas le droit de les stigmatiser.
Oui, bien sûr. Il ne faut pas céder à la tentation de l'autoritarisme intransigeant. Le livre des Proverbes n'est d'ailleurs absolument pas un code de loi rigoureuse, comme peut l'être le Lévitique, par exemple. Comme tous les écrits de sagesse, il va essayer de convaincre, d'expliquer les bienfaits, de donner envie de se conduire suivant ses conseils. Il fait appel à la liberté de conscience et veut susciter le sens moral et donc aider à faire les bons choix. Mais cela n'empêche pas qu'il faut sûrement maintenir aussi des lois et des règles. On pourrait dire aujourd'hui, comme le propose la psychanalyse, que la loi stricte représenterait un modèle paternel et que la sagesse des proverbes serait plutôt le modèle maternel, plus près des contingences matérielles, plus sensibles, compréhensives. Et de fait, nous le verrons souvent dans la Bible, la sagesse y est généralement personnifiée sous une forme féminine. Elle est là pour éveiller à la conscience du bien et du mal.
Oui, mais ça aussi, c'est pas tellement facile aujourd'hui. On n'accepte plus facilement un clivage tranché entre bien et mal maintenant. Ça nous paraît maintenant vraiment simpliste, depuis que nous avons découvert les bienheureuses lois de la relativité. Et ça a engendré, malheureusement, un relativisme moral. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal ? Chacun peut voir ça à sa manière, de nos
chacun
jours.
Chacun son idée sur la chose.
Voilà, donc la simplicité avec laquelle le livre des Proverbes va exposer son idéal du bien, ça demandera pour nous d'essayer de nuancer pour le proposer aujourd'hui. De plus, il y a toujours le même problème de traduction. Parce que traduire, c'est déjà faire un choix de valeur, c'est déjà une interprétation. Alors, donnons un exemple tout de suite où nous en sommes, chapitre 1, verset 10. Deux Bibles, la traduction liturgique et la traduction œcuménique, disent toutes les deux ceci. « Mon fils, si des mauvais garçons veulent t'entraîner, ne les suis pas. » Ou l'autre Bible dit « n'accepte pas ». Mauvais garçons. Alors, qu'est-ce que ça nous évoque ?
Ouais, pour moi, les mauvais garçons, ce sont les voyous, les racailles, comme on dit maintenant. Et cela représente surtout une catégorie d'individus plutôt marginaux, délinquants. Il y a déjà une connotation de milieu social plutôt défavorisé quand même. Et là, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée, parce que dans le texte originel, en hébreu, on évoque clairement le péché. Il dit littéralement les pécheurs, ou comme traduit Chouraki, des fauteurs. Dans les anciennes traductions, Maretsu, Crampon, Jérusalem, Second, n'avaient pas peur de dire... de traduire par « pécheur ». Or, le péché est présent dans toutes les catégories sociales, même les plus respectables, que ce soit chez les notables, les PDG, les pécheurs, on en voit partout. Donc, j'aime pas qu'on dise, qu'on prenne la traduction « mauvais garçon », c'est un peu trop orienté vers plutôt les jeunes, jeunes gens de mauvaise vie. C'est très restrictif.
Vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission La Bible en question. Nous parlons du livre des Proverbes pour essayer d'en retirer des enseignements pour aujourd'hui. Et nous nous sommes arrêtés donc sur le verset 10 du premier chapitre pour dire que les traductions modernes qui disent « Mon fils, si des mauvais garçons veulent t'entraîner, ne les suis pas », eh bien cette traduction-là ne nous plaise pas et que nous choisissons de conserver les traductions anciennes, plus littérales, qui disaient « Mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, ne les suis pas ». Parce que tout le monde est concerné par le péché, pas seulement quelques spécialistes du genre. Quelqu'un de très honorable par ailleurs peut devenir capable de nous solliciter pour quelque chose de très mauvais. Si on avait été conscient de cela, on aurait peut-être, par exemple, pu éviter des scandales de pédophilie. La prudence des proverbes n'est pas seulement une protection devant quelques individus clairement répertoriés, mais devant des séductions du mal en général.
Alors cette petite discussion autour du mot pécheur nous montre en tout cas que, de nos jours, la notion de péché n'est plus très à la mode, puisqu'on craint même d'utiliser le nom. Déjà parce que le relativisme nous fait penser que tout est affaire de goût et de point de vue personnel, puis parce qu'une certaine permissivité quand même ambiante nous pousse à tout tolérer, ou à supporter pour ne pas subir peut-être pire. Lisons donc ce que disent les versets qui parlent des pécheurs. Alors là, donc, on est toujours au chapitre 1, versets 11-15. Ils vont te dire « Marche avec nous, nous allons faire un coup sanglant, traquer un innocent pour voir. Nous allons, comme la mort, le dévorer vif tout entier, pareil à ceux qui descendent à la fosse. Nous trouverons le magot, le vrai butin à remplir nos maisons. Tente ta chance avec nous, nous ferons bourse commune. » Voilà, donc les méchants ont l'air de s'amuser franchement à l'idée du mal qu'ils vont pouvoir faire. Là.
Oui, on sent qu'ils sont montrés comme gratuitement cruels. C'est comme un jeu ou même un sport qui leur apporte le plaisir de détruire et en même temps de s'enrichir. En fait, somme toute, je pense que ce sont des sentiments d'une triste banalité. Parce que sans aller jusqu'au meurtre, bien sûr, mais c'est quand même la loi de la jungle que nous connaissons tous les jours dans notre monde moderne. L'exploitation des faibles, des personnes vulnérables. On nous enseigne ça un peu partout quand même. Peut-être pas...
On n'est pas toujours d'accord.
Exagéré, hein, mais... enfin, il n'y a pas beaucoup de cadeaux qui est fait dans le monde du commerce. Il faut gagner de l'argent. Et sans parler du monde de la finance, où il n'y a quand même aucune bienveillance ni de considération pour les difficultés personnelles. La domination du profit à tout prix, c'est quand même ça la base aujourd'hui, ça endurcit les cœurs. On trouve maintenant normal des situations d'une inhumanité incroyable. Mettre les gens à la porte pour prendre leur maison, ils vivent dans leur voiture, enfin on a vu des situations invraisemblables. Mais ceux qui sont du côté des gagnants, les winners comme on dit maintenant, ils n'ont pas de scrupules de se réjouir d'avoir écrasé des faibles. Maintenant on appelle ça l'esprit de compétition. Alors ça devient bien. Tant pis pour les vaincus.
Oui. Enfin, c'est pas le système qui pervertit les hommes. C'est quand même les hommes qui pervertissent le système. Parce que finalement, même si on n'en est pas conscient, tous les êtres humains ont dans eux une tendance au mal. Il suffit de peu de choses pour qu'elles s'extériorisent. Il y a le goût du pouvoir, le plaisir d'humilier ceux dont on est jaloux, plaisir de se sentir supérieur, malin, plus malin que les autres, etc. Donc les rapports humains sont vite empoisonnés par ce penchant un peu sadique que nous avons tous. Et les proverbes vont être là pour nous inciter à résister. Et c'est ce que dit le verset 15 du chapitre 1. « Eh bien, mon fils, ne marche pas avec eux, ne mets pas les pieds sur leur sentier. » Voilà donc résumé en un demi-chapitre le but de tout le livre des proverbes. Et pourtant, nous avons encore 31 chapitres et demi à découvrir. Parce que même si le but est simple, c'est-à-dire choisir le bien et éviter le mal, la réalisation pratique de ce programme va s'avérer quand même un peu plus complexe.
Ben oui, c'est complexe déjà parce qu'il faut arriver à convaincre des gens de vouloir changer des tendances qui sont enfouies profondément et parfois même pas conscientes. Le meilleur argument employé par le livre va être, en général, celui qu'on trouve au verset 18 et 19, toujours chapitre 1, qui est « C'est contre eux-mêmes qu'ils montent ce coup sanglant. Ils traquent leur propre vie. Telle est la voie que briguent les brigands. Elle leur coûtera la vie. » Donc, de cette formule un peu poétique, mais ça nous dit que le mal finit toujours par se retourner contre celui qui le commet. Et qu'ainsi, nous devons rechercher le bien parce que c'est là que se trouve notre véritable intérêt. Voilà, c'est l'argument, quoi. Dans notre texte, ensuite, change complètement la façon de l'exprimer, parce que c'est la sagesse personnifiée, donc une femme, qui va insister pour qu'on suive le bon chemin. Mais alors, cette sagesse personnifiée, elle est montrée ayant quand même un sale caractère. Hein. Parce que je ne vous lis pas tout, vous regarderez, mais je lis juste les 25 et 26 de ce chapitre 1. Elle dit, la sagesse, « Vous avez récusé tous mes conseils. Vous n'avez pris à cœur aucune de mes critiques. Eh bien, moi aussi, lorsque votre malheur viendra, je rirai. Je serai sarcastique quand viendra l'épouvante. » Elle n'est pas tendre. Hein, donc. En fait, la sagesse manie autant la menace et la réprimande que l'exhortation.
Oui. Mais il y a quand même, hein, à la fin de cette introduction, au dernier verset du chapitre 1, une véritable note d'encouragement. Hein. C'est le verset 33, je vous le lis. « Celui qui m'écoute demeure en sécurité, à l'abri, sans malheur à redouter. » Voilà. Hein, donc, Dame Sagesse est quand même aussi un peu rassurante. Hein, c'est... Voilà. Mais ce tableau d'introduction nous montre que l'éducation comporte deux versants. D'un côté, on enseigne, on exhorte à l'obéissance, au sens des responsabilités, on encourage à poursuivre dans la bonne direction. Et de l'autre, eh ben, on sanctionne ce qui ne va pas. Hein, on réprimande, on punit, et parfois sévèrement, hein, toutes les fautes. Or, de nos jours, la répression, les sanctions ne sont pas toujours très bien acceptées.
Hein. Oh, de moins en moins. Hein.
Il y a, par exemple, de plus en plus de révoltes hein, face au travail de ceux qui personnifient donc la loi, la justice, hein, les policiers, les juges, qui sont souvent chargés de tâches très difficiles. Et pourtant, là où le civisme a disparu, bah, il faudrait quand même peut-être réagir, non ? Si l'éducation à vivre ensemble ne fonctionne pas, doit-on juste subir sans rien dire et accepter donc une société complètement invivable ?
Oui, mais on cherche, j'ai entendu encore récemment, de nouveaux modèles d'éducation sans punition. Le monde occidental a commencé à inventer une notion pas du tout biblique en 68, hein, avec le slogan « Il est interdit d'interdire ». Alors ça, évidemment, c'est pas du tout la loi dans la Bible, hein, parce qu'il y a autant d'interdits que de règles à suivre. C'était l'ancienne manière de guider les consciences. On voit encore cela jusque dans l'Évangile, hein, dans l'Évangile de Luc, chapitre 6. C'est les béatitudes de Jésus, mais que Jésus complète par une antithèse dont on ne parle pas beaucoup, je reconnais, mais je vais vous les lire quand même. Versets 24 à 26 du chapitre 6 de Luc. « Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous, lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'était ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes. » Donc, vous voyez, si Jésus emploie ici la sagesse à double tranchant, modèle ancien, hein, c'est-à-dire... Si vous ne suivez pas mon enseignement, eh ben, vous en tirez les conséquences, vous aurez des problèmes. Parce qu'en fait, la punition, elle est contenue dans le fait même de refuser la sagesse. Toute faute engendre ses propres conséquences. Vous écoutez l'émission La Bible en question à propos du livre des Proverbes dont nous venons de voir que leur pédagogie comporte à la fois des encouragements à choisir le bien et des menaces de sanctions en cas d'inconduite. Nous avons terminé le premier chapitre et le chapitre 2 commence ainsi. « Mon fils, accueille mes paroles, conserve précieusement mes préceptes, l'oreille attentive à la sagesse, le cœur incliné vers la raison. Oui, si tu fais appel à l'intelligence, si tu invoques la raison, si tu la recherches comme l'argent, si tu creuses comme un chercheur de trésors, alors tu comprendras la crainte du Seigneur, tu découvriras la connaissance de Dieu, car c'est le Seigneur qui donne la sagesse. Voilà, donc ce texte que je viens de vous lire, en fait, résume et redit tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. En fait, il n'y a rien de nouveau. Et ça, malheureusement, tout au long des chapitres qui suivent, en tout cas jusqu'au cinquième chapitre, nous avons sans cesse ces mêmes répétitions. Si on change un mot, on déplace légèrement la virgule, mais c'est toujours pareil. Et en fait, c'est une caractéristique de la langue hébraïque de vouloir répéter de nombreuses fois tout ce qui est important, tout ce qui doit être mémorisé. Rappelons-nous que c'est quand même une tradition orale d'abord. Donc on enfonce le clou avec obstination.
Oui. Ah bon, nous avons un peu moins de patience à la lecture. Donc toutes ces redondances sont un peu rébarbatives. Donc citons simplement quelques versets qui confirment les bienfaits de la sagesse. Donc chapitre, je vais vous lire dans le chapitre 2, versets 7 à 10. Le Seigneur réserve aux hommes droits la réussite. Pour qui marche dans l'intégrité, il est le bouclier, gardien des sentiers du droit, veillant sur le chemin de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, le jugement, la droiture, seul sentier qui mène au bonheur, car la sagesse viendra dans ton cœur. Et un petit peu plus loin, donc là, chapitre 3, versets 1 et 2. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement. Que ton cœur observe mes préceptes. La longueur de tes jours, les années de ta vie et ta paix en seront augmentées. Voilà, puis un peu plus loin, au début du chapitre 4, une légère variante. On s'adresse là à plusieurs fils. Fils, écoutez les leçons d'un père. Soyez attentifs et vous connaîtrez l'intelligence. Oui, c'est une valeur sûre que je vous transmets. Ne négligez pas mon enseignement. Moi aussi, j'ai été un fils pour mon père, enfant chéri, unique aux yeux de ma mère. Voilà, donc on voit ici que la transmission traditionnelle, quand même, est un argument important.
Oui, c'est la base. J'aime bien le petit rappel sur le rôle de la mère. C'est vraiment la bonne mère juive qui couvre son fils, enfant chéri, unique aux yeux de ma mère. Eh oui, ça remonte loin. Mais ajoutons encore, pour faire bonne mesure, quelques répétitions qui viennent ensuite pour les mises en garde contre le mal. Donc, chapitre 2, versets 12 à 15, par exemple. « Tu seras préservé des chemins du mal, de l'homme aux propos pervers, de ceux qui délaissent la route droite pour aller sur des chemins de ténèbres. Ils prennent plaisir à faire le mal. Ils se complaisent dans la pire des perversités. Leurs routes sont tortueuses. Ils ne font que dévier sur leur chemin. » Je saute un peu, verset 22. « Mais les méchants seront extirpés du pays, les fourbes en seront arrachés. » Voilà, autre menace un peu plus loin, chapitre 3, versets 31-34. « N'envie pas l'homme violent, n'adopte pas ses procédés, car le Seigneur a horreur des gens tortueux. Il ne s'attache qu'aux hommes droits. Malédiction du Seigneur sur la maison du méchant, bénédiction sur la demeure des justes. Il se moque des moqueurs. Aux humbles, il accorde sa grâce. Aux sages, la gloire en partage. Aux insensés, toute la honte. » Voilà, j'ajoute encore un petit verset, chapitre 4, verset 14. « Sur la route des méchants, ne t'engage pas, ne t'avance pas sur le chemin des malfaiteurs. » Et c'est reparti, voilà.
Alors, autre petit sujet aussi, il ne faut surtout pas oublier toutes les mises en garde qui reviennent régulièrement contre certaines femmes. Quelques exemples. Alors, chapitre 2, versets 16 à 19. « Tu seras préservé de la femme d'un autre, l'étrangère aux paroles enjôleuses, celle qui a délaissé l'ami de sa jeunesse, oublié l'alliance de son Dieu. Sa maison incline vers la mort, ses détours mènent aux ombres, quiconque va chez elle n'en reviendra jamais. » Il n'atteindra jamais la route de la vie. Et ça recommence, chapitre 5, versets 3 à 6. Oui, le miel coule des lèvres de la femme d'un autre, plus que l'huile onctueuse et sa bouche, mais elle laisse à la fin amertume d'absinthe, blessure d'une épée à deux tranchants. Vers la mort descend de ses pas, son pied touche au séjour des morts, jamais elle n'ouvrira un chemin de vie, ses pistes se perdent sans qu'elle n'en sache rien. Voilà, quel tableau, hein. La femme est donc porteuse de tous les dangers et de tous les maux, là, hein.
Oui, comme beaucoup, mais c'est quand même ici pas n'importe quelle femme. Non. C'est la femme d'un autre, appelée aussi femme étrangère. Pour ma part, je vois surtout là-dedans un symbolisme du risque de l'idolâtrie. Là. Parce que ces femmes sont des enjôleuses et elles symbolisent la séduction des religions exotiques, les religions étrangères. Mais ici, c'est encore pire parce que le texte dit elle a trahi son mari. Ça peut donc décrire aussi des situations d'apostasie. D'autant que le texte ajoute qu'elle a oublié l'alliance de son Dieu. Donc, c'est théologico-marital. Mais ce qui est sûr, c'est que la Bible a en horreur l'adultère. Ça, vraiment, ça se retrouve dans toute la Bible jusqu'à l'enseignement de Jésus. Et en général, dans l'Ancien Testament, la femme adultère est une image pour Israël quand elle se détourne de l'Alliance et qu'elle trahit son Dieu. Donc, ce qui est étrange pour moi, c'est de retrouver ces interdits dans un livre attribué au roi Salomon. Oui. Il faut quand même se rappeler que sa passion pour les femmes étrangères a conduit à sa perte, hein, et a fait éclater l'unité des 12 tribus, puis causer le schisme entre Israël et Juda. Hein, Dieu était vraiment fâché. Donc, alors, qu'est-ce que c'est les proverbes? C'est « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Peut-être. En tout cas, la femme dite étrangère porte ici une très vilaine responsabilité.
Bon, c'est quand même une symbolique un peu facile, hein, et donc malheureusement, nous ne sommes pas encore sortis aujourd'hui, j'ai l'impression. Hein. La femme séductrice, dangereuse, la tentatrice qui tend des pièges aux pauvres hommes sans défense. Voilà. Tous les problèmes viennent forcément des femmes, hein, et ça remonte déjà à Adam et Ève. C'est nous montrer quand même un modèle masculin d'irresponsabilité chronique quand même, hein, et comme si tous les hommes étaient incapables de se maîtriser, trop faibles pour supporter les sollicitations des mauvaises femmes. Cela ne cadre pas quand même beaucoup avec les prétentions masculines que propose la Bible, hein, où l'homme est censé représenter Dieu, alors que la femme représente l'humanité à sauver. Pensons à ce que dit saint Paul aux Éphésiens, dans son chapitre 5, versets 22-23. « Que les femmes soient soumises à leur mari comme le Seigneur Jésus. »
Comme
au Seigneur Jésus. « Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête. »
Oui.
Donc, si les hommes sont ainsi les représentants de Dieu, d'où vient ce qu'ils sont tellement terrorisés par les femmes?
Oui, ça me paraît un peu contradictoire. Où est-ce que c'est un réflexe de défense? Allez savoir. Mais je crois que l'opposition est en fait ici entre la femme comme épouse légitime, aimée, et la femme d'autrui, qu'on n'a pas le droit de convoiter. Donc, c'est d'un côté une alliance salutaire et de l'autre un piège mortel. C'est vraiment une affaire de rapport à Dieu. La fin du chapitre 5 des Proverbes va préciser un peu cela, mais dans une forme très poétique. Je vous le lis quand même, c'est un peu lyrique. « Bois de l'eau à ta citerne, des eaux vives de ton puits. Tes sources iraient-elles se répandre au dehors, couler en ruisseaux sur les places? Qu'elles soient pour toi seul, sans partage. Que ta fontaine soit bénie, qu'elle soit ta joie, la femme de ta jeunesse, biche de tes amours, gracieuse gazelle. Laisse-toi toujours enivrer de ses charmes, reste éperdu d'amour pour elle. Pourquoi, mon fils, c'est prendre d'une autre, enlacer une étrangère. » Voilà, tout est dit.
C'est bon.
Dans la Bible, tout nous parle de l'alliance sainte, en fait, entre Dieu et l'humanité, dont l'union de l'homme et de la femme est censée être le symbole. Il faut la même fidélité dans le mariage que dans l'alliance à Dieu. Alors, l'interdit de l'adultère est resté un point essentiel jusqu'au Nouveau Testament, ainsi donc l'interdit du divorce. Mais je pense que nous reviendrons sur ce sujet difficile lors de notre prochaine émission, car il est temps de nous dire au revoir maintenant. À bientôt, chers auditeurs.
Au revoir Catherine, au revoir à tous.
Thank you.